Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Notre émission du jour nous entraîne vers l'Italie à travers deux artistes. L'un est un des artistes majeurs du siècle passé dont la profondeur de réflexion nous est devenue désormais indispensable, vitale. Je veux parler de Pier Paolo Pasolini, 1922-1975. Alors effectivement, 1922-2022, un siècle. Après sa naissance et 47 ans après sa mort, Pasolini nous est toujours contemporain et constitue un cas, entre guillemets, politico-culturel auquel on se réfère constamment. Héros de la nouveauté, mais attentif aux valeurs du passé, révolutionnaire, enclin à la contradiction, dévoué au classicisme, mais prêt à expérimenter de nouveaux langages, se montrant la plupart du temps déconcertant et ne connaissant pas la tempérance. Il a abordé dans son œuvre infinie et protéiforme, romans, poésie, cinéma, théâtre, essais politiques, des thèmes généraux et éternels tels que le destin de l'homme, le mythe de la nature et de l'histoire. Le sens sacré de la vie et de la mort, en faisant des sujets de confrontation, de défi et souvent de provocation. Le second artiste avec lequel nous converserons au cours de la présente émission, musicien, flûtiste, chef d'orchestre, directeur musical de l'ensemble Nuovo Contrapunto et également de l'ensemble Suoni Riflessi, il est le fondateur également du festival du même nom, Suoni Riflessi, à Florence. Et donc je recevrai dans cette émission, dans quelques instants, Mario Ancilotti. Résonance, Alain Goudard, une émission mise en onde par Simon Deborn.
Balzer, lili e desi, fatue e cortesi, han veste elegante di taglio sanguinante. Desi e lili, lesi cincili, va tra le foglie del placido mare.
Nella via spiegata.
Résonance sur Radio B. Derrière qui écrit doit se trouver la nécessité d'écrire la liberté, l'authenticité, le risque. Pasolini. Nous venons d'entendre Halloween Scherzi Musicali, interprété par Luigi Maio, Il Musicatore et l'ensemble Suoni Riflessi, placé sous la direction musicale de Mario Ancelotti, que nous aurons l'occasion d'entendre au cours de cette émission. Alors, à l'occasion du centenaire de la naissance de Pier Paolo Pasolini, 1922-1975, dont la vie s'est tragiquement achevée une nuit de novembre sur une plage d'Ostie dans des circonstances encore mystérieuses. Eh bien, différents événements, publications, colloques, ouvrages sont parus en 2022 et ont été organisés au cours de cette année, présentant un large choix de ses études, articles, entretiens et conférences, qui n'ont cessé depuis 40 ans d'être consacrés au poète cinéaste. Tout cela laisse bien transparaître que Pasolini nous est toujours encore aujourd'hui contemporain et constitue un cas politico-culturel auquel on se réfère constamment. Pasolini, c'est aussi bien sûr de la poésie, une œuvre poétique aussi importante, et je vous propose de découvrir un extrait d'un des poèmes de jeunesse de Pier Paolo Pasolini. Je me lève avec les paupières en feu. L'enfance blême sous la barbe, poussée pendant le sommeil, sous ma chair amaigrie, se scrute avec la lumière fondue dans mes yeux consumés. Je finis ainsi dans le sombre incendie d'une jeunesse détournée de l'éternité. Je me brûle ainsi. Il est inutile, si l'on y pense, d'être autrement, d'imposer des limites au désordre. C'est ainsi que m'entraîne toujours plus frustre, avec un visage desséché dans son aspect d'enfance, vers un ordre calme et fou, le poids de mes jours perdus en de muettes heures de gaieté. J'ai toujours pensé, écrit Pier Paolo Pasolini, comme n'importe quelle personne normale, que derrière qui écrit doit se trouver la nécessité d'écrire, la liberté, l'authenticité, le risque. Penser qu'il doit y avoir quelque chose d'officiel et de social qui fixe l'autorité de quelqu'un est une pensée précisément aberrante qui est évidemment due à la déformation subie par qui ne sait plus concevoir la vérité en dehors de l'autorité. Moi, je n'ai derrière moi aucune autorité, sinon celle qui me vient paradoxalement de n'en pas avoir et de ne pas en avoir voulu, et du fait que je me suis mis en situation de n'avoir rien à perdre, et donc de n'être fidèle à aucun pacte qui ne soit celui qui me lie à un lecteur que, du reste, je juge digne de la recherche la plus scandaleuse. » Fin de citation sur ce propos de Pier Paolo Pasolini. Et voici encore un extrait de l'un de ses poèmes, extrait cette fois-ci des Poèmes oubliés de Pier Paolo Pasolini. Lointain dimanche. Une faux scintillante se balance dans le sentier. Le jeune qui la porte sifflote tout content. Une grenouille chante, perdue au fond des sillons. Il ne reste dans le monde entier que ce coin de terre. Et le jeune à la faux pense à ses jours de fête, tandis que tinte une cloche au loin. Résonance sur Radio B, derrière qui écrit, doit se trouver la nécessité d'écrire la liberté, l'authenticité, le risque. Pasolini. Les deux séquences de gouttes d'eau de pluie que nous venons d'entendre ont été enregistrées dans l'église, plus particulièrement la basilique Sainte-Croix, Santa Croce, à Florence. Celle-ci a été construite par l'architecte Arnolfo di Cambio en 1294. Un lieu effectivement incontournable à découvrir, dans lequel il faut marcher et se laisser écouter justement les sons, et notamment ceux de la pluie. Il faut aussi vous signaler, chers auditeurs et auditrices, que Santa Croce, cette basilique de Sainte-Croix, est aussi le panthéon de personnalités des arts et des sciences de la ville de Florence. Et vous pourrez ainsi y voir le cénotaphe de Dante, puisque son corps n'est pas ici, mais à Zaravenne, mais il y a ce cénotaphe qui est là. Et puis les tombeaux de Michel-Ange, Machiavel, Rossini, Galilée et de l'humaniste Leonardo Bruni.
Vieni, grande Merisni, al suo mazzolino uccelli a fronte, canta gavotte. Errore! la vera signora Behemoth. Donna Behemoth, sempre più nera, fa uscire pazza la sua cameriera. In un tubo maniero sta Mrs. Behemoth, donna d'umor malizioso e nero, grida la Behemoth.
Vieni, 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 minore, ti schiaccio a mo,
l'insetto fra i piedi, di giallo fiente il candelone, zucca e scorpione. Pagode, o almeno mi pare, l'inverno ghiaccio. braccia nel gelido amplesso e perfino la faccia agghiacciante riflesso. La crosta del manto biancheggiò sul viaggiatore. Ma tu ti ricordi quel giorno, Kenedica? No, sto già per scordare il dicembre.
Résonance sur Radio B. Derrière qui écrit doit se trouver la nécessité d'écrire, la liberté, l'authenticité, le risque. Pier Paolo Pasolini. Je vous propose maintenant d'aller à la rencontre de Mario Ancelotti, flûtiste, chef d'orchestre, directeur de festival. Mario Ancelotti se forme au Conservatoire de musique de Florence où il étudie avec de grands artistes renommés, avec Salvatore Alfieri, Luigi Dalla Piccola, Roberto Luppi, Franco Rossi, Piero Farulli, Piero Bellugi. Et entre 1970 et 1979, il occupe le poste de flûte solo à l'orchestre de la RAI de Rome, aux côtés de Severino Gazzelloni et à l'Accademia di Santa Cecilia. Il se consacre ensuite entièrement à la musique solo et de chambre, ce qui l'amène à collaborer avec des musiciens tels que Salvatore Arcado, Riccardo Muti, Luciano Berio, Goffredo Petrassi, Salvatore Sciarrino, Hans Werner Henze, et à jouer également sous la direction de chefs importants tels que Peter Mahag, Sylvain Cambrelin, Ernest Bourg, Hubert Soudan et Christophe Penderecki. Bien sûr, il a enseigné également Mario Ancelotti et on le retrouve dans les conservatoires de Rome, de Pérouse, de Florence. Il donne aussi des cours et des séminaires en Suisse, en Autriche, dans le monde entier, en France, en Allemagne, au Japon, aux USA, au Mexique, au Chili, en République tchèque, en Espagne. Organisateur et directeur artistique de festivals de musique, que ce soit en Italie ou à l'étranger, il a été aussi le fondateur et anime le festival Suoni Riflessi, ici à Florence, dans lequel la musique est confrontée à d'autres arts et expressions. Mario Ancelotti a eu la gentillesse de nous accueillir lors de notre passage à Florence et il nous livre son regard sur son parcours, sur la musique, sur ses réflexions aussi en tant que musicien au cours d'un entretien qu'il nous a accordé le 24 janvier dernier à Florence, dans la salle Vanni, tout proche de la basilique Santa de Carmine.
Mario Ancelotti, bonjour.
Bonjour, bonjour Alain.
Merci en tout cas de nous accorder ce petit moment d'interview pour évoquer votre travail de musicien, mais aussi votre attachement à la création et à la musique contemporaine. Et peut-être pour nos auditeurs, serait-il bien de peut-être repasser le parcours rapidement, mais depuis quand vous vous êtes aventuré dans les chemins de la création de la musique contemporaine, ici à Florence?
Oui, pour moi, c'est pas très important de divider la musique, une musique contemporaine ou une musique traditionnelle. Pour moi, la musique, c'est seulement une musique. La musique, c'est la manière expliquer la sensibilité des périodes à travers les sons et la sonorité. Maintenant, nous avons une manière qui est expliquée avec le jazz, avec la musique contemporaine, c'est ce que nous appelons musique contemporaine, vraiment. Oui. Mais à travers les pop, je pense qu'il y a des choses intéressantes.
De part et d'autre.
Et oui. Dans toutes les manières de faire la musique. Et mon festival qui a 20 ans mon festival, nous avons traité toute la musique. En particulier la musique des cultures, on peut dire comme ça. Pas la musique classique, non. La musique des cultures. Mais, et ça c'est très intéressant, nous avons attiré beaucoup de publics, beaucoup de jeunes, parce qu'il n'y a de limites dans les musiques. Ça c'est très intéressant. Ici à Florence, il y a beaucoup de choses, aussi beaucoup de choses qui s'occupent de la musique contemporaine, mais je pense qui n'est pas comme ça important.
C'est peut-être pas la meilleure chose.
Oui, oui. Je pense.
Est-ce qu'elles ont tendance à s'enfermer sur le mode de faire, à rester en plus dans un, on dirait en français, un entre-soi, c'est-à-dire rester un peu plus sur eux-mêmes?
Oui, 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 oui. Je ne sais pas, mais j'aime beaucoup d'entendre la musique contemporaine de Berio, de Boulez, et aussi comme Bach ou Schubert, parce que il y a toujours en toute la musique des choses très intéressantes, très importantes qui peut me donner une attention particulière.
Vous êtes flûtiste aussi.
Oui, je suis flûtiste.
Voilà,
je suis flûtiste, mais la flûte, c'est un très bon, bel instrument,
c'est
mais
ça.
C'est pas ça suffit pour moi, parce que je vais garder et je veux voir tous les panoramas, les possibilités de la musique. Je fais aussi les directeurs, je fais.
Oui, puisque vous dirigez aussi.
Également. Oui, mais maintenant pour moi c'est très intéressant de faire l'organisateur musical.
Et de fait, alors pour dissocier aussi bien la direction de l'ensemble ou lorsque vous étiez flûtiste. Vous avez eu beaucoup cette relation avec les compositeurs, d'être en lien avec eux, de créer avec eux, d'être dans cette démarche de complicité quand vous mettez en œuvre, vous créez une nouvelle œuvre.
Oui, ça c'est pour moi c'est très intéressant. Mais toujours j'ai fait comme ça. Aussi quand je faisais seulement les flûtistes, ouais. Pour moi les contacts avec les compositeurs contemporains c'était vraiment très intéressant, très important, parce que c'est la nôtre musique, la musique de Bach, de Schubert, c'est la musique d'une génération passée avec que nous avons la possibilité de parler avec l'autre. Mais, alors, la musique, l'art, c'est un message entre générations. Et pour moi, c'est très intéressant
de le penser comme ça.
Oui, de penser et d'y parler avec Schubert, avec Bach. Mais c'est encore plus intéressant de parler avec Boulez, Berio et les autres compositeurs contemporains.
Est-ce qu'il y a justement, parlons peut-être des compositeurs italiens, vous évoquez Berio, Chiarino peut-être.
Oui.
Quels sont ceux qui peut-être vous ont plus marqué dans ces compositeurs contemporains italiens d'aujourd'hui?
Alors, j'ai vu des contacts avec Berio, mais je pense que les contacts plus intéressants que j'avais étaient avec Chiarino. Et le prochain novembre, nous avons une concert complète
avec Chiarino,
avec deux œuvres vraiment très intéressantes. Une est l'Infinito Nero et Les Voci Sotto Vetro. Ils sont deux compositions. One, et la deuxième, c'est une composition, il est une élaboration de Gesualdo da Venosa. Mm-hmm. Et la première, c'est une composition qu'il est pensée d'un personnage de Florence, qui est Maddalena dei Pazzi, très intéressant. La musique de Chiarino, je trouve qu'il est vraiment très intéressant, oui. Parce qu'il a la capacité d'entrer dans l'âme.
Et ça, oui, c'est quelque chose de fort et de...
Difficile, mais fort.
Mais il s'est trouvé à travers son écriture le fait de nous toucher très profondément, intérieurement.
Oui.
Et vous pensez aussi, et je trouve ça intéressant justement, que, et je partage aussi cette idée, cette musique transgénérationnelle qui n'est pas enfermée dans des modes de faire, vous pensez que Chiarino essaye aussi au travers de sa musique d'avoir ces ponts, hein, vous parliez de Bach, de Schubert,
oui.
Et c'est quelqu'un qui essaye qui vient aussi dans cette lignée-là, qui ne fragmente pas la musique mais qui essaye de la mettre dans une même dynamique qui s'échelonne de temps au temps.
Oui, ça c'est vrai. Et je pense qu'il n'est pas intéressé de suivre une direction, une école, mais seulement de communiquer quelque chose qu'il est complètement différent. Et pour lui, n'est pas un problème d'être complètement différent. Et il s'appelle une... autodidacte.
Ça veut dire qu'il n'est pas passé par le conservatoire? C'est quelqu'un
qui... Oui, non. Il est passé par le conservatoire.
Et
lui connaît très bien toute la tradition.
C'est ça.
Mais il a la possibilité d'imaginer des sonorités et des expressions qui sont complètement différentes de celui qui sont...
C'est son propre langage.
Oui.
Et là, vous verriez, alors, là, Chiarino, c'est quelqu'un qui a déjà aujourd'hui, comme Alessandro Solbiati, comme d'autres, qui cheminent déjà depuis longtemps. Est-ce que vous percevez, soit au travers de ce que vous réalisez avec votre ensemble, au niveau de la jeune génération, de jeunes compositeurs, comment vous percevez aussi ceux et celles qui, si je peux dire un peu en français, pointe du nez, arrive, commence, s'aventure sur les chemins de la création? Il y a quelques personnalités que vous percevez aujourd'hui ici, qui vous sembleraient, tiens, là il y a quelque chose?
Ah, je ne sais pas, j'entends beaucoup de musiques contemporaines et j'ai trouvé des compositeurs qui ne sont pas connus ici en Italie et qui sont très intéressants, mais il y a des directions ou des situations qui ne sont pas bonnes pour eux, parce qu'ils doivent, ils devraient suivre une direction qu'il est, et ça c'est un peu difficile. Mais je pense qu'il y a des compositeurs pas connus ici en Italie, vraiment très intéressants. Je peux faire un homme, Antonio Anichini, qui était qu'il est de Sienne. Mm-hmm. Et il était en contact avec Berio, si. mais il est complètement différent. Mm. Et nous avons fait de Anikini quelque chose vraiment très intéressant, vraiment important. Mais ça, c'est difficile pour lui parce qu'il est une personne modeste, une personne non ne fréquente pas les milieux.
Oui, et parlons-en peut-être un tout petit peu de ce milieu, peut-être professionnel, du milieu de l'art. Quel regard portez-vous aujourd'hui justement sur ce milieu? Est-ce que la musique est ici aussi en Italie et où l'art en général se trouve coincé aussi entre les postures politiques, les politiques culturelles des villes, des régions? Comment vous voyez ce paysage aujourd'hui de la musique?
Aujourd'hui, c'est mieux que quelqu'un n'est passé, je pense. Parce que quelqu'un n'est passé... 20 années passées, c'était beaucoup difficile parce qu'il était nécessaire d'être dans une école, dans une direction et dans un milieu très près des pouvoirs.
C'est ça.
Maintenant, c'est mieux parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de directions différentes. Aussi, vers les jazz, vers la musique populaire. Et c'est mieux de qu'en est passé, mais je pense qu'il y a aussi, il n'est pas seulement ici en Italie, mais on partout, c'est comme ça, c'est un peu mieux. Parce que nous avons admiré celui qui les compositeurs du Japon, les compositeurs de l'États-Unis, et ça c'est bien parce que le panorama c'est un peu plus haut. Ou plus vide, plus ample.
Ça me fait penser aussi à une attitude, alors déjà d'un compositeur passé, Béla Bartók, qui était tellement profondément européen, humaniste, et qui justement s'attachait s'il entendait une musique roumaine, arabe ou autre d'un autre pays, pour lui c'était aussi essentiel et c'était même extrêmement important que la musique soit très humaniste aussi, soit la plus diverse possible. Et c'est cette diversité qui lui semblait également très importante.
Un exemple, c'est Giovanni Sollima. Tu connais Giovanni Sollima? Giovanni Sollima, c'est un très merveilleux violoncelliste, mais il a une création incroyable parce que il vient de Sicile et il a de l'atmosphère de l'arabe, de l'Afrique. Il a une liberté en sa musique, c'est vraiment incroyable. Et ça, c'est difficile de dire si c'est une musique contemporaine, si c'est une musique jazz ou populaire. C'est tout.
Il s'inscrit vraiment dans cette continuité et dans cette non-fragmentation de la musique, comme on a beaucoup tendance à la catégoriser, chanson, pop, jazz, alors que c'est des fils, des nœuds de connexion permanente entre toute cette manière de faire.
Oui.
Et la place, parce que la musique populaire ici en Italie, c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'elle continue quand même d'avoir toutes ces traces? Je pense à une Giovanna Marini, par exemple, à une époque qui était une grande personne qui a vraiment fait connaître, notamment en France, une certaine partie de la musique populaire. On parlait de Berio tout à l'heure aussi, qui lui a cherché à faire des ponts, justement, avec cette couleur de la musique populaire. Est-ce que celle-ci a toujours cette place aussi, cet intérêt, cette présence aussi dans...
Ça, c'est Pour moi, c'est très intéressant, toute la musique, aussi la musique populaire. Il y a beaucoup de musique populaire qui est seulement commerciale. Et ça, c'est vraiment une je n'aime pas ça. Mais il y a des musiques populaires très intéressantes, très... Paolo Conte.
Oui.
Oui, et Lucio Dalla. Il faut faire
mettre à distance un peu ces différents courants à l'intérieur de la musique populaire. Oui, certaines ont une vocation hyper commerciale.
Oui, oui.
Et c'est l'objectif.
Quelquefois, j'aimais aussi les rocks, mais pour moi, c'est un langage vraiment très, très loin.
Loin de ce que vous avez l'habitude d'approcher.
Oui.
Est-ce que du coup, il y a quand même la curiosité ce style-là, même le rock ou d'autres tendances d'aujourd'hui, éveille toujours votre curiosité quand même, votre étonnement ou votre envie de tendre l'oreille?
Pour moi, le rock, c'est trop bruyant. C'est trop... les bruits. Quelquefois, je trouve qu'il a une force, une énergie vraiment incroyable. Mais il n'y a pas de finesse, jamais. Et moi, monsieur, je suis trop vieux pour aimer les rocks. Mais ça, c'est une limite.
Alors peut-être continuons comme ça un peu ce panorama. On évite aussi aujourd'hui, on est dans une époque où la technologie nouvelle, le travail sur la matière sonore, où toutes les technologies sont venues, la musique informatique, traitée informatiquement, ou un certain nombre de paramètres. Comment vous ressentez ça? C'est aussi des endroits où vous vous aventurez ou vous y allez avec
prudence? Non, je suis très intéressé à la musique, comment dire, électronique,
acoustique.
Mais quelques jours passés, j'ai entendu une interview à Bruno Maderna à propos de la musique et de l'électronique. Il l'a trouvé beaucoup intéressant. Et il a dit que l'électronique, c'est une des grandes découvertes de ce moment, c'est les années 60 ou 70. Mais il disait qu'il était un instrument pour faire la musique. C'est pas la musique. C'est seulement un instrument pour faire la musique, la musique électronique.
Oui, donc du coup, vraiment que ce n'était pas une manière à part, mais que c'était vraiment quelque chose qui était encore un moyen supplémentaire de s'aventurer dans la matière sonore et de traiter la musique de cette manière-là.
Oui, il faut travailler dans la matière sonore, il faut travailler, mais il n'est pas... les points d'arrivée, mais c'est seulement une manière de s'expliquer et à travers les sonorités, mais parce que quelquefois il était travailler avec la musique électronique, c'était un point d'arrivée. Et il disait qu'il n'est pas un point d'arrivée. On doit utiliser la l'électronique pour arriver à la communication musicale.
Ici, il y a Tempo Reale avec important parce que c'est le studio qu'a créé Luciano Berio. Ici, on revient aussi à cette période de création. Et puis, on peut souligner que Tempo Reale existe toujours. Il y a Francesco Giomi.
Je connais très bien.
Et vous avez été membre du conseil d'administration, je crois.
Oui. Jusqu'à l'année passée.
Donc voilà. Et c'est important encore que la création de ce studio ici à Firenze et le fait qu'il existe encore aujourd'hui, même si certainement c'est pas toujours simple aussi pour Tempo Reale de continuer à exister.
Non, je pense que c'est temporel, c'est une très bonne création de et il est beaucoup soutenu dans l'État et aussi dans les communes, la région. Je pense que Temporel a la possibilité de devenir encore plus important. Non.
Oui, et ça, c'est important d'avoir un tel studio, un tel structure ici à Florence, en tout cas.
Oui. Ça, c'est un cadeau de Berio.
Et ça, c'est important qu'il continue, justement, encore à se développer de cette manière-là. Alors, ici, notre interview, Mario Ancelotti, se déroule dans un lieu aussi particulier. Et j'aimerais que vous puissiez nous dire quelques mots sur ce lieu que vous connaissez bien, puisque vous y donnez régulièrement aussi des concerts, ici à Florence.
Oui.
Comment nous le dépeindre, ce lieu ?
Ça, c'est un lieu vraiment très, très particulier parce que c'était une salle où les monarchies.
Les moines ou les moines, religieux.
Oui, prenaient leur paste, leur repas.
Nous sommes donc dans leur réfectoire ici.
Les réfectoires. Il était les réfectoires. Ça, c'est très intéressant. Il est très grand. J'imagine qu'il était beaucoup de monde ici.
On est proche de la Plaza Carmine, justement, hein, où il y avait ce monastère.
Le monastère de Benedictini.
Bénédictin. Ou bénédictine aussi, peut-être, parce que c'était des religieuses.
Oui, des religieuses, oui. Et maintenant, il était transformé en une salle de musique, parce qu'il est... Il a été acheté par les communes et il a été transformé. Et j'aime beaucoup pourquoi parce qu'il y a déjà des fraîches vraiment très intéressantes et de la période gothique, aussi de la période de la fin du 16e siècle, Vanni. Ça, c'est
nous sommes dans la salle Vanni.
De la salle Vanni, ecco.
Et c'est vrai que pour dire à nos auditeurs, nous sommes entourés, nous sommes au milieu de la salle avec Mario Ancelotti, et sur les murs sont présentes, en tout cas, soit en partie, totale, dans les couleurs, les graphismes sont hyper présents. Quelquefois, certaines de ces sont un petit peu... certaines ont disparu ou fragmentaires, et la salle est complètement entourée de fresques représentant différentes périodes de la vie du Christ. Et c'est vraiment une très, très, très belle salle, en tout cas, que ce réfectoire.
Et il y a une sonorité très belle.
Oui.
Oui, ça, c'est la meilleure sonorité à Florence d'une salle de cette dimension. Et ici, traditionnellement, il a été des saisons de musique classique, mais aussi de musique de jazz. Le Musicus Concentus, c'est une saison de jazz. Et alors, c'est ça pour moi, c'est très important parce qu'il n'est pas adressé seulement dans la musique classique, traditionnelle. Mais il y a un public et une mission d'ouverture.
Oui, c'est une salle vraiment qui accueille différents types de musique. Et donc, du coup, les différents publics qui viennent à ces concerts osent aussi aller découvrir d'autres facettes que propose cette salle.
Oui.
Ça, c'est quelque chose d'important. En tout cas, un grand merci, Mario Ancelotti, pour ce moment, pour cette interview, ce partage d'idées et de points de vue. Peut-être encore, on évoquait les compositeurs là tout à l'heure. Alors peut-être pour terminer, la place du compositeur aujourd'hui comment est-elle en Italie de votre regard ? Vous êtes un interprète, vous dirigez des ensembles, mais comment sentez-vous
la place aujourd'hui dans la société italienne du compositeur, de la compositrice. On parle aussi, on essaye de mettre en avant aussi de plus en plus qu'il y a des femmes compositrices aussi aujourd'hui, sur lesquelles on n'attachait pas forcément beaucoup d'attention auparavant. Comment vous voyez-vous, de votre place à vous d'interprète et de chef d'orchestre, la place des compositeurs aujourd'hui ? Est-elle plus facile, plus difficile ?
Non, j'ai déjà dit, même, et je crois que c'est un peu plus facile, mais il y a trop peu de public. Ça, c'est, et c'est plus facile parce qu'il y a une ouverture plus grande, un intérêt peut-être dans une part de la population, mais l'autre part, c'est pas préparé, c'est pas prêt de comprendre la musique, toute la musique, pas seulement la musique contemporaine.
Donc il y a à trouver les chemins pour aller vraiment un plus large public et
c'est un grand problème de trouver un plus large public. C'est vraiment un très grand problème. Et j'espère, j'ai fait quelque chose ici à Florence, mais il faut faire partout. Je suis été beaucoup de fois en Chine, Japon. La situation c'est complètement différent. Il y a beaucoup d'intérêt pour la musique. Ici, l'intérêt pour la musique, c'est, et surtout c'est pour la musique contemporaine, c'est trop peu.
Ouais, donc là, il y a de vrais enjeux et d'où l'importance aussi de votre présence et du travail que vous menez depuis de nombreuses années ici, avec d'autres. Hein, vous êtes plusieurs sur la ville de Florence à aussi faire découvrir tous ces chemins de la musique. Et voilà, une belle initiative.
J'espère.
Oui, et je crois qu'on aura l'occasion en tout cas de pouvoir y revenir prochainement, puisqu'on vous retrouvera au mois d'octobre 2023 ici à Florence. Ici. Donc on aura l'occasion de peut-être poursuivre au cours notre échange. En tout
je
cas.
Suis très heureux de ça.
Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt. À bientôt.
Résonance sur Radio B. Derrière qui écrit doit se trouver la nécessité d'écrire, la liberté, l'authenticité, le risque. Pier Paolo Pasolini. Voilà, nous refermons cette fenêtre radiophonique que nous avions ouverte aujourd'hui en direction de l'Italie et avec laquelle entre Pasolini, le théâtre, le cinéma et tout ce que représente cet artiste incontournable aussi d'Italie et ce parallèle aussi avec la musique et Mario Ancelotti, acteur aussi très important donc de cette volonté de faire passerelle entre toutes les musiques. Donc j'espère que vous avez eu plaisir à justement ouvrir cette fenêtre à nos côtés, avec nous, et à sentir cet air venant d'Italie, en tout cas qui peut être revivifiant à plein d'égards. Cette émission de Résonance sera diffusée mardi prochain de 14h à 15h, puis dimanche de 20h à 21h. Et comme vous le savez, vous pouvez réécouter, podcaster aussi longtemps que vous le souhaitez, donc la présente émission ainsi que les émissions précédentes, en vous rendant sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou bien sûr sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver très régulièrement sur Radio B. À très vite.